9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est cette semaine la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Ce mercredi aura lieu le traditionnel débat d'entre deux tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce sera le remake du débat de 2017 qui avait été calamiteux pour l'image de Marine Le Pen. Sur le fond, elle paraissait hésiter quand le débat portait sur l'économie, et sur la forme avec cette imitation de chauve-souris qui fait encore les beaux jours des humoristes. Ses équipes ont d'ailleurs catégoriquement refusé que le réalisateur de cette soirée-là, Tristan Carnet, soit de nouveau aux manettes, tout comme les deux candidats auraient refusé Anne-Sophie Lapix les interviews. Voilà qui donne le ton. Alors, comment va se dérouler le débat de mercredi? Tout est évidemment bordé, les moindres détails de plateau, de plan de coupe, de distance ont été négociés avec chacun des deux camps, et surtout un nouveau réalisateur va prendre le contrôle des images. Didier Froli qui est avec nous, bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous en
avec
direct.
Plaisir.
Vous êtes réalisateur de télévision depuis 33 ans et encore, 33 le mot est faible, vous avez réalisé d'innombrables plateaux télé, ou piloté notamment Vendredi Tout est permis par Arthur, on vous voit souvent aux manettes de C'est à vous sur France 5, l'Energy Music Awards, mais un débat politique de l'entre-deux-tours, l'aviez-vous déjà fait?
Non, pas de débat d'entre-deux-tours, j'ai fait les primaires de la droite et du centre et celle de la gauche pour France Télé il y a 5 ans, mais un débat d'entre-deux-tours, non, pas du tout, et c'est à la fois gratifiant, fier d'apporter un éclaircissement pour les électeurs, pour le futur ou la future présidente.
Vous avez dit oui tout de suite ou vous avez hésité? Pourquoi avez-vous accepté Didier Froli?
Alors très franchement, quand Thierry Tuilier m'appelle, ma première réaction c'est « Ah merde ». Je rentrais de tournage de Ninja Warrior, j'étais à la boule, il faisait beau, je m'apprêtais à passer une semaine de Pâques super avec mon chien, tout ça, et là je me dis « Waouh, ça me tombe sur le nez, on peut pas dire non, ça se fait qu'une fois dans une vie, ce genre de débat, donc voilà ».
Pourquoi « Ah merde » et pourquoi « Ah top » ?
Alors,
pourquoi pas « top » ? Parce que justement, ça se refuse pas. Pourquoi vous auriez pu hésiter ?
Je pense qu'à ce moment-là, j'étais fatigué du tournage de Ninja, où on a travaillé dans des conditions difficiles. Il faisait 2 degrés à Cannes la nuit, c'était un peu épuisant. On a pris 2 jours de retard, etc. Et c'était le lendemain de mon retour. Mais dans la seconde d'après, tout de suite, je me suis projeté. Je me dis « Waouh, c'est super excitant, quoi ».
Nathalie Saint-Cricq, qui faisait partie des deux intervieweurs du débat précédent, disait, je me souviens qu'elle disait ici à ce plateau, on ne peut pas faire grand-chose, ce débat est tellement bordé que notre action est limitée, notre champ d'action. Là, en l'occurrence, pour mettre en scène cette joute verbale de mercredi, rien n'est laissé au hasard. La température sur le plateau, la distance entre les candidats, les fauteuils, les plans de coupe, les moindres détails, on l'a déjà dit, font l'objet de négociations de chacun des camps. Quel sera votre rôle dans ce débat ?
De faire en sorte que tous ces ingrédients fassent un joli plat, mais je vais le servir light et sans assaisonnement. C'est-à-dire que on n'est pas dans un show de divertissement, il n'y a pas de lumière qui clignote, il ne va pas y avoir de mouvement intempestif de caméra ou de switch, etc. Le propos passe avant tout, c'est d'abord le fond avant la forme. Ensuite, dans la forme, je vais avoir quand même un peu de
l'attitude.
De l'attitude, parce que les journalistes, c'est vrai, c'est eux qui vont cumuler le temps de parole le plus court, clairement. Mais bon, c'est dans l'importance du propos des candidats. Et les candidats, on a voulu, avec les directions de l'info des deux chaînes, de TF1 et de France 2, vraiment... Franchement, et même pour en parler des réalisateurs conseils aussi, mais j'ai vraiment voulu que ça soit archi équitable. C'est-à-dire que Tristan Carnet a fait un gros travail il y a 5 ans en se battant pour l'obtention des plans de coupe. Donc déjà, la négociation avec les staffs a commencé par là. Thierry Tuilier a dit...
Vous savez quoi ? Je vais me permettre de vous interrompre parce que c'est tellement important, le cœur du sujet. Pourquoi il y a toute cette négociation, il faut revenir en arrière.
Oui.
Aux manettes, vous l'avez dit, c'était Tristan Carnet.
Il y a 5 ans.
Nous sommes en 2017. Débat regardé par plus de 16 millions de téléspectateurs. Débat terrible pour l'image de Marine Le Pen lorsque la candidate s'est mise à caricaturer son adversaire en mimant une sorte de gestuelle paranoïaque.
Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de votre parti.
Ils sont sur les réseaux sociaux.
Je parle du parti de l'extrême droite.
Les envahisseurs.
Celui que vous dirigez. Le parti de l'extrême droite.
Et on voit des plans qui montrent le candidat Emmanuel Macron perplexe face à ce qui était une tentative d'humour. Et justement, c'est là le cœur du problème. Didier Froli, expliquez ce qu'est un plan de coupe.
Alors, un plan de coupe, c'est pendant que je suis en train de parler, la réalisatrice qui s'occupe des caméras d'Europe1.fr pourrait très bien passer un plan de vous en train de m'écouter et de cligner des yeux et de dire oui, du regard.
Ou non, non, non.
Ou non, non,
ou
non,
ironiser, absolument. Ou montrer que je me moque.
Absolument. Et pour moi, c'est un plan de coupe, mais d'écoute. Maintenant, si vous êtes en train de chercher dans vos fiches quelque chose, boire un verre d'eau, vous grattez le nez, et qu'on vous passe, c'est plus un plan d'écoute, c'est un plan de coupe. La différence est importante. Or, dans la charte d'il y a 5 ans, il était écrit « plan de coupe avec parcimonie ». Ça restait assez vague et ça laissait pour une grande première quand même pas mal de latitude à Tristan. Et je pense qu'il Tristan Carnet a subi un faux procès et qu'il est parti avec l'eau du bain. C'est-à-dire que tout ce qui concerne 2017, on n'en parle plus, c'est un mauvais souvenir, au revoir.
Alors, je prends cet exemple extrêmement éclairant des notes. C'est-à-dire que pendant qu'Emmanuel Macron parlait d'économie, sujet qu'il maîtrise parfaitement, au lieu qu'on voit Marine Le Pen en train de l'écouter, on la voyait en train de farfouiller dans ses notes. Et ce fut calamiteux pour son image.
Oui, mais alors là, c'est pareil.
C'est ce que vous voulez dire.
Oui, mais il y a deux interprétations. Vous voyez qu'elle cherche dans ses notes et donc elle est perdue. Moi, je peux très bien interpréter qu'elle cherche dans ses notes un argument qu'elle vérifie pour appuyer là où ça fait mal.
Alors, je vous pose la question. Qu'ont dit les équipes de Marine Le Pen, justement, quand ce sujet est venu sur la table?
Alors, j'avais pris un peu d'avance et j'avais proposé aux rédactions TF1 et France 2 de d'écrire très clairement ce qu'allait être mon plan de coupe, qui sera un plan d'écoute. Je m'explique. Si le candidat ou la candidate tient le regard de son interlocuteur en face de lui, acquiesce, n'acquiesce pas, un rictus, etc., je peux passer autant de plans d'écoute que je veux. En revanche, si quelqu'un cherche dans les fiches, boit un verre d'eau, se gratte le nez, regarde par terre, etc., ça n'a aucun intérêt. Ça n'apportera rien au fond. Moi, j'ai envie que tout le monde soit content à la sortie du débat. Je sais pas encore pour qui je vais voter, c'est ça le pire. Donc j'ai envie vraiment qu'il y ait du fond et savoir ce que je ferai la semaine prochaine, est-ce que je voterai blanc, est-ce que je voterai pour un des deux candidats, j'en sais rien. Mais c'est pour ça que la grue, par exemple, le plan large du studio, nous l'avons placé dans l'axe, pas d'un côté, qui peut privilégier la face d'un candidat par rapport à l'autre, même si on connaît pas encore les places, vu qu'on n'a pas fait le tirage au sort qui sera fait demain.
Vous avez évidemment appelé Tristan Carnet. Je dis ça parce que je le sais, mais que vous êtes-vous dit? Ça, je ne le sais pas. Didier Froli est avec nous avant le débat de mercredi sur toutes les chaînes Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Didier Froli, le réalisateur qui va réaliser, pardon pour le pléonasme, mais il n'y a pas d'autre mot, le débat tant attendu, ce sera mercredi entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Tristan Carnet avait réalisé le débat en 2017. Il a été récusé pour des raisons qu'on a dites, je vais les répéter. Il avait montré la candidate Marine Le Pen en train de fouiller dans ses notes, entre autres. Vous l'avez appelé, Tristan Carnet?
Oui, bien sûr, on se connaît depuis 30 ans avec Tristan, on est très copains. C'est franchement, il avait respecté la charte. On peut rien lui reprocher. Il a passé des plans de coupe avec parcimonie. Donc ça en faisait partie, ça fait partie du jeu. Bien sûr qu'à un moment, le candidat cherche dans ses feuilles, vérifie un chiffre. Voilà. Je trouve ça un peu injuste quand même.
Et que vous a-t-il dit? Que vous êtes-vous dit?
Il était content pour moi. Moi, j'étais encore à ce moment-là entre deux eaux.
Vous l'aviez appelé avant d'avoir accepté? Pour savoir ce qu'il en pensait.
Dès que TF1 m'a appelé, j'ai appelé Tristan, je dis t'es sûr? Parce que en plus au résultat du premier tour, il y a un moment où dans la soirée, dans la nuit, Mélenchon revient très très
on
serré.
On se souvient, il aurait pu devenir deuxième plutôt que troisième.
Et là, je rappelle Tristan. Et je lui dis, écoute, finalement, tu vas pouvoir le faire. Et moi, je vais rester à la boule.
Et oui, parce qu'il avait été récusé par le camp Le Pen, voilà. Non pas par le camp Mélenchon,
absolument.
Ni par le camp Macron. Oui, oui, oui. On ne va pas trahir un secret, vous n'étiez pas le deuxième choix, mais le troisième.
Non. Moi, je suis le plan C.
Ça aurait pu être Jérôme Revon.
Oui, ben absolument, puisque Jérôme était proposé pareil. Jérôme est un copain depuis 33 ans. Dans ces studios-là, ici, où était Canal, on a travaillé ensemble longtemps.
Je vais dire la vérité, je vous ai connus tous les trois,
oui,
petits, et moi aussi j'étais
exactement.
Petit.
Ben oui. Et Jérôme était proposé par France Télé, enfin, chaque chaîne propose son candidat, et récusé aussi.
Par Marine Le Pen?
Oui.
Pour quelle raison?
Il avait réalisé le meeting de l'Accor Arena de Macron et ça, voilà, c'est un peu se tirer une balle dans le pied peut-être et il n'a pas eu cette chance.
Ce qui était rédhibitoire aux yeux du Rassemblement National, je ne trouvais plus le R. À chaque débat présidentiel, il y a son moment culte. On se souvient de la longue anaphore de François Hollande, c'était en 2012. On ne va pas diffuser l'intégralité, mais petit rappel.
Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens.
On arrête ici. En réalité, la séquence a duré 3 minutes 30. C'est très très long en télévision. Et pendant cet anaphore, c'est pour ça que c'est notre sujet, que c'est passionnant, il n'y a pas de plan de coupe, dit Effroli. Est-ce que vous savez quelle était l'expression de Nicolas Sarkozy en face? D'après les observateurs, il semblait plus que dubitatif. Et c'est pour cette raison que les plans de coupe ont été autorisés en 2017.
Alors moi, j'étais réalisateur conseil de Nicolas Sarkozy en 2007. Donc en 2012, j'étais pas dans le quart. Mais c'est Jérôme Revon qui réalisait le débat. Et j'imagine tellement comment il a dû se contrôler pour ne pas appuyer sur la caméra de Nicolas Sarkozy. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme un boxeur qui prend des coups et l'autre est sonné. On voit que celui qui donne les coups, on voit pas celui qui encaisse et qui est dans les cordes. Et pour un, qui plus est pour un réalisateur de sport, c'est ultra frustrant. Très très frustrant, même pour le téléspectateur d'ailleurs.
Et pour raconter pour la petite histoire, l'histoire de la télévision, les plans de coupe, l'absence de plans de coupe avait été négociée par Serge Moati, qui s'occupait de l'image de François Mitterrand en 1981. Ça vous fait lever les yeux au ciel, pour quelle raison, Didier Froli?
Oui, parce que c'est de l'anti-télé. C'est de l'anti-télé, il n'y a pas de vie. C'est-à-dire que c'est la télé à papa, le discours du général de Gaulle face à une caméra qui ne bouge pas. Mmh. On est en 2022.
Et alors pourquoi le camp d'en face a accepté?
A accepté les plans de coupe?
Non, qu'il n'y en ait pas. Valéry Giscard d'Estaing en 81 et ensuite 88, le débat Mitterrand-Chirac, où justement Mitterrand avait pris le dessus sur Jacques Chirac.
Parce que Moati était un homme d'image et que du côté Giscard, les conseillers étaient plus politiques qu'image et la télé n'était pas aussi puissante que maintenant.
Évidemment, la soirée ne se résume pas aux plans de coupe. Quelles autres conditions ont été négociées? Quelles nouveautés, disait Froli, ou quel retour a?
Ça a été simple, franchement, pour je trouve que ça a été simple de travailler avec les deux camps. L'avantage, c'est que tous les deux connaissent l'exercice. C'est un peu Rocky 2. C'est le match retour, quoi, en gros, pour les sportifs. Et donc, voilà, il n'y a plus les pièges ou les inquiétudes qu'il y avait avant. Ils reviennent pour une deuxième fois. Donc, tout le monde est tombé d'accord sur la distance entre les deux candidats. On voulait pas qu'ils soient trop éloignés, bien sûr. Donc, on est à 2,50 m. Les places seront tirées au sort. Quand il y a un doute, voilà, il y a tirage au sort.
Il y a des réalisateurs conseils.
Absolument.
Qui pour quel camp?
Il y a deux conseils. Ça peut être un réalisateur comme un conseiller communication. Ça devrait être Philippe Ballard pour le journaliste pour Marine Le Pen.
Philippe Ballard, un ancien de LCI.
Absolument. Et Jérôme Revon pour Emmanuel Macron, qui seront avec moi dans le quart.
Combien de caméras? Vous dites que ce ne sera pas du grand spectacle, mais ce n'est pas non plus filmé à quatre caméras. C'est pas YouTube. Hein.
Au total, il y a 23 caméras, 19 cadreurs. Alors, vous allez dire, pourquoi 23 caméras pour filmer deux personnes?
Exactement, c'est la question que tout le monde se pose.
Bien sûr. Alors, en réalité, dans le débat pur, il y a 16 caméras. Mais, par exemple, sur le gros plan des candidats, il y a le gros plan, le plan à deux, puis les deux caméras de secours. Tout est secouru. Mmh. Les micros sont secourus.
Tout est doublé, secouru. Ouais.
Les lumières qui éclairent les faces des visages sont secourues. Plus ce secouru, c'est ceinture et bretelles partout. Mmh. Donc il y a deux quarts régie, il y a deux équipes. Il faut moins de 10 secondes pour quitter mon premier quart pour aller dans le quart secours s'il y a un problème. Dans le quart secours, une deuxième équipe est là, suit le débat et j'ai juste à arriver, poser les mains sur le mélangeur et reprendre la main et le téléspectateur ne s'en rendra pas compte.
Il y a du public?
Non.
Le décor,
on a. Alors là, ça suit les innovations techniques. On parle de 4K maintenant. Moi, je vais travailler en haute définition dans le quart régie. Les caméras ont des capteurs haute définition. Et le décor, on a 30 mètres 50 d'écran, 30 mètres 50 de largeur sur 3 mètres 70 de haut. Ça représente 148 mètres carrés d'écran LED en 4K. À 9 millions de pixels de qualité. Autant vous dire que le fond derrière les candidats va être très joli.
Et on verra quoi? Vous allez projeter quoi dans ce fond?
Un
fond neutre?
Oui,
ou des images de caméra?
Non, c'est assez neutre. Non,
ou des images d'illustration? Dernière question, le duo de journalistes choisi par les chaînes et par les candidats sera inédit. Il va s'agir de Léa Salamé qui présente l'émission politique de France 2, Gilles Boulot qui présente le 20h de TF1, le nom d'Anne-Sophie Lapix, présentatrice du 20h de France 2 qui avait été évoquée au départ, a été retoqué par les deux candidats. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Qu'un journaliste puisse être retoqué par des candidats.
Ça me paraît normal. Enfin, désolé, mais personnellement, ça me paraît normal. Les chaînes proposent et les candidats disposent. En revanche, je trouverais pas normal que les candidats demandent tel ou tel journaliste. Mais là, c'est assez clair. Après, Anne-Sophie, la pauvre, enfin, je suis désolé pour elle, mais c'est vrai qu'elle aurait été super aussi dans cet exercice, mais elle fait déjà les émissions présidentielles pendant la campagne. Si ça avait été un garçon côté France 2, TF1 aurait dû proposer une fille. Enfin voilà, c'est toujours compliqué, hein, mais le couple Gilles et Léa, ça va très bien fonctionner.
Dernière question, est-ce que vous avez subi des pressions de la part d'un camp ou de l'autre, ou des deux camps ?
Philippe, on se connaît un petit peu, est-ce que j'ai une tête à subir des pressions ?
Les subir, oui, mais à céder.
Non, céder certainement pas, mais non, ni pression, ni même, j'ai aucun contact avec les camps. À part les réalisateurs, enfin les conseils des candidats que je vais voir encore demain après-midi, non, j'ai pas de contact.
Merci beaucoup Didier Froli, je rappelle que vous allez réaliser l'émission de débat. Je vous ai pas demandé, ça sera sur le terrain de la 1, sur le terrain de la 2 ou ailleurs, où sont les studios ?
Les studios sont des studios loués au groupe AMP Visual. C'est du côté du Stade de France à la Plaine Saint-Denis, donc c'est complètement neutre. Et les deux chaînes travaillent en parfaite cohésion sur cette coproduction-là. Franchement, c'est un vrai bonheur.
Ce sera donc mercredi à 21h sur la 1, sur la 2, évidemment, sur les 4 chaînes d'info, LCI, France Info, CNews et BFM, et en audio sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup.
Merci,
on
Philippe.
Est content maintenant de savoir que tous les micros seront doublés. Ça va bien, bien marcher pour l'audio. Dans un instant, quelqu'un que vous connaissez bien, Jérôme Pitorin, vous connaissez,
oui,
vous avez bossé avec lui.
En 96, sur combien ça coûte avec Jean-Pierre Pernaut.
Maintenant, il est dans Échappée Belle sur France 5. L'émission se décline en magazine papier. On en parle avec lui et avec la rédactrice chef de ce magazine papier. Elle s'appelle Pauline Wag. Ils arrivent et nous aussi. À tout de suite sur Europe 1.
Philippe Blondel.
Culture Média.
Sur Europe 1.